Les sels d'aluminium présents dans les déodorants antitranspirants sont-ils responsables de certains cancers du sein ? Après une première étude controversée en 2012, les soupçons se précisent aujourd'hui, Valin Corny.
Oui, en 2012, l'étude réalisée uniquement in vitro avait divisé le monde scientifique, mais les chercheurs genevois André-Pascal Sapino et Stefano Mandriotta confirment en effet leurs soupçons après avoir inoculé à des souris des cellules mammaires exposées à de très faibles quantités de sel d'aluminium.
Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'avis que le risque soit le même chez l'humain. On a notamment pu l'entendre hier dans CQFD sur cette même
Non, effectivement, depuis la révélation de cette nouvelle étude avant-hier, le débat s'est rouvert. Pour André-Pascal Sapino, on en est au même stade que lorsqu'on suspectait la dangerosité de l'amiante et que personne n'y prêtait attention. Ça a mis 50 ans avant que les autorités réagissent. Du côté des autorités, justement, aujourd'hui, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires estime qu'il n'existe aucun lien scientifiquement démontré entre les antitranspirants contenant de l'aluminium et le cancer du sein, en se basant sur une évaluation européenne datant de 2014. L'Office fédéral ne prend néanmoins pas position. Ce n'est pas possible actuellement de le faire de manière officielle et définitive.
Ouais, toujours est-il qu'on n'a pas envie peut-être d'attendre le fin mot de l'histoire pour changer de déodorant, mais concrètement, comment choisir déo sans aluminium ? Pierre d'Alain et autres méthodes artisanales sont-ils moins nocifs et surtout sont-ils aussi efficaces ? Question très concrète que nous posons ce matin au dermatologue lausannois André Tsurne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio dont on en parle. Mais peut-être d'abord un avis personnel sur ces soupçons contre les déodorants antitranspirants qui pourraient provoquer certains cancers du sein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors écoutez, je pense que j'ai un petit peu regardé la littérature. Depuis une vingtaine d'années, on en parle. Longtemps, ça a été considéré comme une rumeur infondée. Et tout ce qu'on peut voir au niveau des sites officiels, les autorités sanitaires, et les instituts de recherche sur le cancer, y compris aux États-Unis, c'est extrêmement rassurant sur le plan quotidien. Après, c'est vrai, depuis la première étude, le doute a été semé. Et personnellement, j'ai examiné la première étude en considérant un peu que c'était une étude in vitro sur des cellules. Et comme beaucoup de gens, j'ai pensé que ça venait du laboratoire et que finalement, ça n'avait pas une incidence énorme sur le quotidien. Maintenant, la deuxième étude, elle est un petit peu plus également in vitro, mais in vivo, puisque c'est des cellules cancéreuses de souris qui ont été transformées avec les sels d'aluminium, injectées à des souris qui font des cancers. Donc, c'est une étape supplémentaire qui vient effectivement jeter un nouveau doute. Et je pense que oui, toute la question est à réexaminer à la lumière de cette étude.
Un certain principe de précaution.
Alors absolument.
Pour les utilisateurs, peut-être.
On n'a pas les preuves formelles sur le plan clinique du fait que le sel d'aluminium serait cancérigène. Mais disons, il y a quand même un faisceau de soupçons. Et pour les personnes concernées, c'est vrai que le principe de précaution fait qu'on finit par se poser la question du changement de déodorant, ce qui a déjà été fait par beaucoup de femmes. Et comme on va probablement discuter, elles ont pris des déodorants qui ne sont pas à base de chlorure d'aluminium.
Et concrètement, donc, si on veut appliquer ce principe de précaution, si on veut éviter les déodorants au sel d'aluminium, on fait quoi alors ?
Alors, on regarde dans les grandes surfaces et les pharmacies, le choix des déodorants sans chlorure d'aluminium s'est agrandi. Donc l'industrie a réagi et le message a quand même été entendu, puisque dans de nombreuses gammes, vous avez des déodorants sans chlorure d'aluminium. Et après, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas ? Il semble qu'il y ait une efficacité moins grande, parce que le chlorure d'aluminium est extrêmement efficace. Si vous voulez, il a la fonction de précipiter les protéines dans la sueur, ce qui obstrue un petit peu les pores. Donc l'excrétion est diminuée, retardée. Donc c'est vrai, vous n'allez pas transpirer avec les sels d'aluminium. C'est efficace et c'est bon marché. Et il n'y a pas de molécule équivalente qui ait trouvé la même fonction. Par contre, les antiperspirants sans chlorure d'aluminium sont plutôt basés sur le fait de contenir des essences végétales ou des parfums qui sont censés masquer un peu l'odeur de la sueur. Donc, c'est vrai qu'ils ont une efficacité, semble-t-il, un petit peu moindre, un parfum plus prononcé, voire éventuellement, ce qu'on craint, vous savez, quand on remplace une molécule par une autre, comme les parabènes qui ont été remplacés par isomésothiazolinone, on a des fois des molécules qui sont presque encore pires. Et c'est vrai, dans certains antitranspirants sans chlorure d'aluminium, vous allez trouver des essences végétales multiples qui peuvent être par exemple allergisantes ou des alcools qui peuvent aussi être plus ou moins toxiques. Voilà, la question est ouverte, mais le choix est là. Il faut les essayer, il faut voir s'ils conviennent, s'ils sont supportés ou pas, et s'ils sont aussi efficaces. Et j'ai peur que souvent, disons, ils ont une efficacité un peu moindre.
C'est ce qu'avait montré notamment un test d'abonne entendeur de 2012 qu'on a remis en lien aujourd'hui sur la page de l'émission. Alors certains étaient plus efficaces que d'autres, mais dans tous les cas, les alternatives, c'était souvent des parfums, effectivement, souvent reconnus pour être allergènes, allergisants. Quoi qu'il en soit, si on veut quand même éviter ces sels d'aluminium par principe de précaution, est-ce qu'on peut le voir facilement sur l'étiquetage ou est-ce que ça fait partie des ingrédients cachés qui peuvent se retrouver là où on ne les attend pas?
Non, on peut trouver très facilement les ingrédients parce que le chlorure d'aluminium mais souvent cité en premier dans les ingrédients quand il est présent parce qu'il est assez abondant dans les déodorants qui en contiennent. Donc la composition est nette. Et puis évidemment, l'industrie s'est aussi emparée du marché parce que tout le monde a été extrêmement interpellé déjà par la première étude. Et c'est vrai que c'est marqué en gros sans chlorure d'aluminium parce que c'est une notion qui a été largement diffusée et qui est à l'esprit de beaucoup de femmes. Et je sais que énormément de femmes, disons, ont renoncé aux déodorants à base de chlorure d'aluminium et ont quelquefois eu de la peine à en trouver un qui soit réellement efficace. Mais comme il y en a beaucoup, peut-être qu'en essayant successivement l'un et l'autre, on finit par en trouver un qui a des propriétés efficaces sur soi.
Est-ce qu'il y a un entre-deux, par exemple, les roll-on qui contiennent des sels d'aluminium, mais qui seraient peut-être moins nocifs que les sprays parce qu'on inhale au moins pas le produit? Est-ce que ça change quelque chose ou c'est vraiment uniquement le contact avec la peau qui est problématique?
C'est plutôt le contact avec la peau qui est problématique. Dans les sprays, évidemment, il y a un certain nombre de gaz qui sont négatifs pour la couche d'ozone, donc plutôt à éviter. Les roll-on sont plus sûrs. Et c'est vrai, la pénétration transcutanée est un grand problème parce que justement les cosmétiques sont censés ne pas avoir une pénétration ni avoir un effet réel sur l'intérieur du corps. Donc quand on achète un cosmétique, on se dit toujours « je risque rien ». Quand on applique une crème médicamenteuse sur ordonnance, on sait qu'une crème antibiotique peut provoquer des résistances bactériennes, une crème à la cortisone provoquer une atrophie. Donc jusqu'à maintenant, quand on achète un déodorant au chlorure d'aluminium, on se dit « ça pénètre pas ». Du tout dans ma peau. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a des recommandations, comme vous avez dit tout à l'heure, de l'OSAV qui dit n'appliquez pas le déodorant sur une peau fraîchement rasée, irritée, où la couche cornée aurait été enlevée, parce que là, le risque de pénétration est un peu supérieur. Et on entend aussi les autorités médicales, en particulier les centres d'oncologie, dire n'appliquez peut-être pas tous les jours le déodorant au chlorure d'aluminium. Donc il y a quand même, disons, une diffusion du message qui fait qu'on n'est pas encore dans une interdiction formelle parce qu'on n'a pas la preuve épidémiologique nette. Mais l'idée fait son chemin et les femmes ont déjà réagi. Et maintenant, disons, jusqu'à ce que les autorités sanitaires et académiques réagissent, c'est un petit peu plus long parce qu'on n'a pas une preuve scientifique vraiment d'une étude prospective en double aveugle, ce serait très difficile à faire, mais ça viendra peut-être. Disons, l'avenir nous montrera si c'est réel ou pas, tout ce qu'on discute là.
Le fait que l'industrie, en tout cas, ait emboîté le pas, c'est peut-être aussi une manière de se dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose, puisque ce n'est pas souvent les premiers à réagir lorsque ça pose problème. La pierre d'Alain est présentée aussi comme une alternative naturelle, mais finalement, elle contient aussi des sels d'aluminium, c'est ça?
Oui, elle contient aussi de l'aluminium. La pierre d'Alain. Donc, c'est pas sûr.
Vous avez parlé, André Zurne, à plusieurs reprises des femmes qui ont déjà renoncé au sel d'aluminium parce qu'on parle de risque de cancer du sein. Les hommes n'ont donc rien à craindre avec ces déodorants antitranspirants?
Alors, le cancer du sein est très rare chez l'homme.
Mais il existe?
Il existe. C'est une réalité. Après, il est possible justement dans le cadre de troubles métaboliques où il y aurait ce qu'on appelle un petit peu un hyper-œstrogénisme pour des raisons métaboliques ou médicamenteuses. Et évidemment, c'est possible que dans ce contexte, des déodorants au chlorure d'aluminium jouent un rôle aussi favorisant. On pense peut-être que le chlorure d'aluminium a un effet un petit peu œstrogène-like.
Mais est-ce que vous le déconseillez aux hommes aussi?
Alors les hommes ne se posent pas la question. Les hommes et les cosmétiques, c'est tout un chapitre, ça n'existe pratiquement pas. Par contre, les femmes, elles ne posent pas la question, mais elles ont pris l'initiative, souvent personnellement, d'y renoncer. Et elles ont appliqué un principe de précaution, peut-être avec raison.
J'ai envie de vous poser une dernière question très rapidement, André Tsurne. Les déodorants antitranspirants, hein, c'est de ça qu'on parle aussi avec le sel d'aluminium. Je me suis toujours posé la question, est-ce que finalement c'est bien d'empêcher notre corps de transpirer, de prendre un déodorant qui empêche la transpiration, qui est quand même quelque chose de naturel et utile pour le corps, non ?
C'est une question qu'on entend, effectivement, parce que depuis ces études, les questions relatives à la transpiration et à sa fonction sont exprimées par le public. De même que les fonctions relatives à la pilosité, puisqu'on élimine ardemment la pilosité maintenant de toutes les régions du corps, les gens finissent par se demander « mais est-ce que mon poil était nécessaire ?» Et comme on élimine aussi l'hypersudation par d'autres méthodes, comme les injections de toxines botuliques, ou l'utilisation même maintenant des micro-ondes médicaux, hein, les gens finissent par se poser la question « mais est-ce qu'en éliminant ma sueur, est-ce que ça aura un impact métabolique ou pas ?» Et en général, on considère que non. Disons, l'utilisation de ces méthodes aboutit simplement à un confort supplémentaire. Et c'est vrai aussi que dans le public, l'exigence vis-à-vis de l'absence totale de transpiration est devenue plus élevée. C'est-à-dire, autrefois, les gens qui étaient traités pour la transpiration excessive, c'était des gens qui avaient vraiment des aisselles qui dégoulinaient et qui étaient gênés sur le plan professionnel. Maintenant, on remarque qu'il y a des gens qui simplement ne veulent plus transpirer, alors qu'ils ne transpiraient pas énormément, et qui emploient des moyens, justement, comme je les ai cités, qui sont des moyens médicaux, déjà beaucoup plus puissants, et liés à l'utilisation de substances pharmacologiques nettes. Et les gens ont tendance à recourir à ça, parce que justement, le niveau de confort est considéré comme
nécessaire. Il n'y a pas de danger à utiliser un antitranspirant aujourd'hui.
Non, a priori, il n'y a pas de danger.
Merci beaucoup, en tout cas, André Tsurne, dermatologue à Lausanne, pour toutes ces informations très pratiques. Nous ne manquerons évidemment pas de revenir sur le sujet si de nouvelles études viennent confirmer ou infirmer ce risque de cancer du sein causé par les déodorants au sel d'aluminium.